Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les Hongrois dans la rue pour protester contre le gouvernement de Viktor Orban. C'est une loi qui permet d'imposer des heures supplémentaires sans véritable garantie qui a déclenché le mécontentement. Mais au-delà de ce texte, c'est aussi l'état de la démocratie qui est en cause. Le musellement des médias, la mise en place de nouvelles juridictions pour les dossiers sensibles sur la corruption et les élections. Pour Viktor Orban, les difficultés s'accumulent. Il est déjà menacé par une procédure de sanction exceptionnelle de l'Union européenne pour non-respect de ses valeurs. À Budapest, Florence Labruyère nous raconte une semaine de colère au Parlement et dans la rue.
Cela fait 40 ans que Lajos Vég travaille au chemin de fer hongrois. Il répare les locomotives à Debrecen, à 250 km à l'est de la Hongrie. Il était dans le cortège lors de la première manifestation avant le vote de la loi sur l'augmentation des heures supplémentaires. Une loi voulue par le gouvernement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre en Hongrie. Mais pour Lajos, ce n'est pas une solution.
On n'est pas assez nombreux dans mon atelier. C'est vraiment un miracle qu'on arrive à faire le boulot. Mais je trouve un peu fort que le gouvernement veuille résoudre le problème du manque de main-d'œuvre de cette façon. Mais quand est-ce qu'on va se reposer, nous ?
La loi autorise les entreprises à payer les heures supplémentaires 3 ans après qu'elles ont été effectuées. Pour les syndicats et l'opposition, c'est inacceptable. Armés de sirènes et de sifflets, les députés d'opposition essayent de retarder le vote. Ils empêchent le président de l'Assemblée d'accéder à son pupitre et d'actionner le système de vote électronique. Peine perdue, le 12 décembre, la majorité du Premier ministre adopte tout de même la loi. Un député d'opposition dénonce un vote illégitime. Il filme la scène et la diffuse sur les réseaux sociaux. Elle sera vue par 1 million de personnes. Cette fraude est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le soir du vote, une manifestation spontanée a lieu devant le Parlement. Le Fidesz est une mafia, scandent les manifestants, en référence au parti de Viktor Orban. Dans la foule, Zoltan, un étudiant en histoire de 23 ans.
L'opposition a mené une action importante. Elle a montré qu'elle pouvait jouer un rôle au Parlement. Maintenant, c'est à nous, les Hongrois, de lutter pour nos droits.
Pour Zoltan, il ne s'agit plus seulement de s'opposer à la loi sur le temps de travail.
La façon dont agit le Fidesz est inacceptable. Ils détruisent la liberté de la presse, la liberté d'opinion, ils ont pris le contrôle de la justice. On est là pour montrer qu'on n'accepte pas ces lois, qu'on n'est pas d'accord avec le Fidesz.
Bense, un étudiant en littérature, est du même avis.
Monsieur Orban se fiche complètement des lois. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ce pays. On est vraiment en colère. Après mes études, il faudra absolument que je trouve un travail parce que mes parents ne sont pas des proches de Viktor Orban.
Après la place du Parlement, les manifestations se sont déplacées devant la télévision d'État. Citoyens et députés d'opposition exigent que ce média soit au service du public et non pas du parti au pouvoir. Peter, un informaticien de 33 ans, a participé à de nombreuses manifestations ces dernières années.
Ces manifestations n'ont rien changé. C'est vrai que la situation est un peu désespérée, mais je suis tout de même optimiste. J'espère que quelqu'un va émerger de ce mouvement, quelqu'un de compétent qui pourra conduire le changement.
La loi sur le temps de travail a cristallisé les mécontentements. Elle a fédéré autour d'un même but les étudiants, les syndicats et une opposition jusqu'ici fragmentée.
Et l'opposition a appelé à une grande manifestation vendredi soir. Et en Espagne aussi, on s'interroge sur le futur de la démocratie à l'occasion des 40 ans de la Constitution qu'on fêtait au début du mois. Des volontaires organisent des référendums symboliques dans l'espoir d'obtenir un vrai référendum. Leurs questions concernent la fin de la monarchie et la mise en place d'une troisième république. 22 des plus grandes universités publiques et 1 millier de municipalités participent à cette vaste consultation. En Espagne, la crise concerne à la fois l'institution monarchique affaiblie par les frasques et les scandales financiers, mais aussi l'unité du pays avec la crise catalane. Reportage à Madrid, signé Diane Cambon.
Monarchie ou république, quel modèle d'État préférez-vous? Voilà la question posée lors du symbolique référendum organisé par la société civile espagnole. Une vague républicaine qui rallie en particulier les plus jeunes. La majorité n'a pas connu l'arrivée sur le trône de Juan Carlos de Bourbon le 22 novembre 1975, deux jours après la mort du dictateur. C'est Franco lui-même qui avait désigné Juan Carlos pour lui succéder. Or pour Sonia, une étudiante de sciences politiques à l'Université Complutense de Madrid, ce modèle est désormais obsolète.
La monarchie, pour moi, cela ne représente pas grand-chose, car il n'y a pas d'élection et j'aimerais vraiment pouvoir décider quel type d'État je souhaite.
Julio, un républicain de 65 ans, explique pourquoi il s'oppose à cette monarchie parlementaire, qui selon lui appartient aussi à un autre temps.
D'abord parce que c'est un héritage du franquisme, et puis parce qu'il n'a pas été élu. On peut se retrouver face à quelqu'un de néfaste dans la gestion des affaires du pays, face à ses enfants aussi, que l'on doit supporter à cause de la lignée familiale. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas cela juste.
L'abdication de Juan Carlos en juin 2014 avait suscité des espoirs chez les Républicains. Mais ce fut de courte durée. Une écrasante majorité de députés a voté en faveur de l'intronisation de Philippe VI. Et ce 6 décembre, les 40 ans de la Constitution étaient célébrés en grande pompe à la Chambre des députés, en présence de Sa Majesté, mais aussi de son père, Juan Carlos, et de sa fille, la dauphine Léonore, future reine d'Espagne. La relève semble assurée aux grandes dames de Nanda, une républicaine convaincue. Cette madrilène est persuadée que le changement ne viendra pas des institutions, mais du peuple.
Pour faire une véritable consultation, il faut modifier la Constitution et cela ne va pas être facile à mettre en place. La volonté et le désir doivent venir du peuple et c'est pour ça que nous commençons à nous mobiliser dans la rue.
La formation alternative de gauche, Podemos, est le seul parti à réclamer la restauration de la République et une modification de l'actuelle Constitution. Sachant que ce souhait n'est pas réalisable aujourd'hui, le leader Pablo Iglesias demande au moins la possibilité de convoquer un référendum permettant à l'opinion publique de s'exprimer.
Il ne s'agit pas seulement d'un débat sur la forme d'État que l'on souhaite, mais sur la possibilité pour les Espagnols majeurs de décider par eux-mêmes. Doivent-ils continuer à supporter les décisions des partis qui s'arrangent entre eux au lieu de soumettre cette décision aux citoyens?
Depuis 3 ans, plus aucun sondage officiel n'a été réalisé sur la popularité de l'institution monarchique. Les outrances de la famille royale et les scandales financiers qui ont entaché la couronne ces dernières années, avec notamment l'incarcération en juin dernier du beau-frère du roi Philippe VI, ont certes porté un coup dur à l'image de la monarchie. Nanda est offusquée de devoir supporter un tel spectacle.
C'est un système totalement décadent. Les membres de la famille royale n'ont plus pudeur, ils ne font même plus semblant de dissimuler leurs frasques. Comment peut-on avoir de tels représentants? Évidemment que l'on n'en veut plus.
Mais pour autant, les défenseurs de la République ne sont pas naïfs et savent qu'un changement de régime ne supprimera pas les scandales de corruption. Et certains reconnaissent, comme Julio, que la République est souvent trop idéalisée. La Seconde République, renversée par le putsch de Franco en 1936, reste pour beaucoup un modèle d'État idéal.
Personne ne l'a réellement vécu, on la connaît à travers l'histoire, mais la Deuxième République incarne en Espagne une époque de liberté sur la religion, un saut dans l'éducation, une ouverture vers la modernité avec le chemin de fer. C'était la fin de beaucoup d'interdictions et plus de liberté.
L'historien Pablo Fusi est plus critique sur ce pan de l'histoire récente espagnole.
Des grandes réformes positives de la République, je pense personnellement qu'il faut retenir la concession de l'autonomie à la Catalogne, la réforme agraire et la réforme militaire. En revanche, la plus grande erreur a peut-être été la politique pour la laïcité, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, car elle est à l'origine de la confrontation avec l'Espagne catholique, qui représentait la majorité. Je crois qu'en 1931, la monarchie était le grand problème, alors qu'en 1975-1978, la solution a été la monarchie.
Le rôle de Juan Carlos, sortir de la dictature pour permettre la transition démocratique, reste reconnu par la majorité des Espagnols. Reste à savoir si son fils Philippe VI parviendra à se rendre aussi indispensable pour l'équilibre du pays. La crise catalane et la perte de l'identité nationale montrent les limites de son pouvoir. Lame. Yeah. Yeah.
dans notre chronique, on retrouve Ève Minot. Bonjour Ève.
Bonjour Frédéric.
La COP24, la grande conférence sur le climat, s'est terminée le week-end dernier à Katowice en Pologne. Et alors que les appels des scientifiques se multiplient pour alerter sur l'urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le moins qu'on puisse dire, Ève, c'est que cette conférence a un bilan plutôt maigre et décevant.
Après le coup de tonnerre il y a 2 ans de la sortie des États-Unis des accords de Paris, et alors que chacun sait aujourd'hui que la mise en application de ces accords négociés et signés il y a 3 ans a déjà pris beaucoup de retard, les défenseurs du climat sortent très déçus de cette COP. Le bilan est plutôt maigre.
Et quelles sont les mesures qui ont été adoptées dans le texte final ?
Alors après des discussions tendues, une série de mesures relatives à la mise en œuvre des accords de Paris a été actée. Les États les plus riches devront par exemple comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre et en rendre compte tous les 5 ans, notamment aux pays en voie de développement. Ces derniers avaient réclamé plus d'aides financières pour la transition énergétique, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Mais surtout, la COP24 n'a pas inscrit à son agenda l'objectif recommandé par le GIEC. Vous savez, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a 2 mois, le texte envisageait une série de mesures d'urgence qui permettaient de maintenir le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Une ambition qui dépasse les engagements pris à Paris, qui portent sur une limite de 2 degrés. Donc de ce point de vue, les négociations sont un échec.
Et donc la seule sensation de cette conférence, Ève, a été le discours poignant d'une jeune fille, une Suédoise de 15 ans.
Elle s'appelle Greta Thunberg et elle a rendu bouche bée toute la salle en assenant des vérités toutes simples, mais qui rappellent bien les enjeux d'aujourd'hui.
En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous volez leur futur sous leurs yeux.
Et cette jeune activiste est déjà connue dans son pays pour être à l'origine d'un vaste mouvement.
Oui, elle a commencé toute seule à venir manifester le vendredi et les vendredis ensuite devant le Parlement de son pays pour réclamer plus de justice climatique. À l'origine, c'était pour interpeller les candidats sur l'écologie à la veille des élections dans son pays. Mais 3 mois plus tard, la jeune Greta est devenue un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Et ce, dans toute l'Europe, le hashtag Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir, s'est propagé en Scandinavie, mais aussi, selon nos confrères du Monde, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et même jusqu'en Australie. Dans chacun de ces pays, des manifestations s'inspirent des combats de la jeune Suédoise pour réclamer le vendredi plus de mesures gouvernementales pour protéger le climat dans leur pays.
Et hier, Eve, une autre vidéo a fait le tour du web et cette fois-ci, cela se passe en France.
C'était hier, 4 ONG ont lancé une grande pétition en ligne annonçant qu'elles allaient poursuivre l'État français en justice avec le mot-clé « l'affaire du siècle » car elle ne respectait pas ses engagements pris lors des accords de Paris, justement. En 2007, notamment, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté alors que celles-ci sont censées diminuer depuis la ratification du texte en 2016. Donc en passant par la case judiciaire, ces organisations, dont Greenpeace, dont Oxfam, se font la voix des justiciables et espèrent contraindre la France à respecter ses propres lois. En France, ce genre de démarche est plutôt nouveau, mais aux Pays-Bas, une procédure comparable avait fini par aboutir très récemment et donner raison à 9000 citoyens qui poursuivaient leur pays pour inaction climatique. Résultat, les Pays-Bas sont dorénavant obligés de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020. Comme quoi ça marche.
Merci Ève Minot.
On y difette à solo un prezzo capovolto. Ho tutto nel cervello come un capodonno.
Face aux campagnes de haine contre les libertés, celle d'être différent généralement, une association italienne de défense des droits gays et lesbiens a pris une initiative intéressante. Ses logos avaient été vandalisés, tagués par une énorme croix gammée, une svastika, récit en Sicile, signé Cécile Debarge.
Lorsqu'ils ont découvert une énorme svastika sur la porte d'entrée de leur local, les membres de l'association LGBT Pianeta Milk de Vérone ont décidé de ne pas l'effacer ni de la repeindre comme ils le faisaient d'habitude. Cette attaque homophobe n'est pas la première et au cours des derniers mois, le climat a été particulièrement violent à Vérone. Les locaux de l'association ont été vandalisés plusieurs fois, des autocollants haineux collés dans une zone du centre-ville connue pour être un point de rencontre LGBT et plus grave encore, un couple homosexuel s'est fait agresser une première puis une deuxième fois. Des croix gammées ont été taguées sur le mur de leur maison et leur voiture, puis ils ont été aspergés d'essence dans une tentative de les immoler par le feu. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour tenter de retrouver les coupables. Pour marquer les esprits donc et répondre à l'intolérance, l'association Pianeta Milk a lancé un concours de dessin pour transformer la croix gammée taguée sur leur porte en œuvre d'art. Parmi la quarantaine de participations reçues de toute l'Italie, le jury a récompensé deux vainqueurs ex aequo, ce cadre vide, d'abord entourant la croix gammée, avec une petite légende explicative, comme au musée, qui détaille le titre de l'œuvre. Stupide ignorance, marqueur sur plâtre, septembre 2018, anonyme de Vérone. Retenu aussi vainqueur du concours, l'écriture Love aux couleurs arc-en-ciel où chaque lettre correspond à une branche de la croix gammée. Chaque œuvre récompensée recouvrira pendant une semaine le graffiti en imprimant le projet reçu par mail et en la posant sur la porte. Les autres œuvres reçues sont-elles exposées dans les locaux de l'association ?
Quand on parle de l'île de Lesbos en Grèce dans cette émission, c'est souvent pour parler de la crise des migrants et des conditions indignes de leur séjour dans les camps. Mais l'île possède un autre visage. Sur la côte ouest, elle abrite une des rares forêts pétrifiées du monde. Elle nous raconte à quoi ressemblait cette partie de la planète il y a 20 millions d'années. Un morceau de continent recouvert alors de séquoias géants. En Grèce, Charlotte Stivenard.
Quand on arrive dans le petit village de Sigri sur la côte ouest de l'île de Lesbos, la pierre et les buissons épineux dominent le paysage. Difficile d'imaginer que ce morceau de terre était, il y a 20 millions d'années, recouvert d'une forêt dense. Pourtant, quelques troncs d'arbres un peu étranges rappellent ce lointain passé. Ils semblent immobiles au milieu du site désertique, pour certains avec des racines apparentes. En réalité, ils sont en pierre, fossilisés à la suite d'une éruption volcanique majeure au début de l'ère du Miocène. Ce sont des fossiles, explique Olga Zalkitsi. Elle travaille comme géologue dans le musée d'histoire naturelle construit sur le site en 1994. Selon elle, d'autres forêts de ce type existent dans le monde, mais celle de Lesbos présente des caractéristiques uniques.
C'est une forêt indigène, c'est-à-dire tout un écosystème qui s'est fossilisé sur son lieu naturel de croissance alors que la forêt était vivante. Elle est unique car les caractéristiques morphologiques des arbres sont très bien conservées et visibles sur les fossiles. Il y a une très grande variété d'espèces, 50 espèces différentes d'arbres. Et nous avons aussi retrouvé les animaux de la forêt. Ces quatre caractéristiques nous aident à avoir une information complète sur l'état de cet écosystème il y a 20 millions d'années et comment il a évolué à la suite d'un changement climatique important.
Étudier le changement climatique et informer sur ses conséquences, c'est un des objectifs du musée. Il retrace notamment les étapes qui ont mené à la fossilisation de ces arbres. À l'époque, Lesbos n'était pas une île et toute la région du nord-est de l'Égée faisait partie d'un continent. Aujourd'hui, une partie de ces arbres sont sous le niveau de la mer ou sur une petite île face à Lesbos. Pour mieux comprendre et apprécier le site, le musée propose aussi des sorties en bateau en compagnie d'un guide. Une belle façon de découvrir ce patrimoine naturel, on ne peut plus rocailleux.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'information.